Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS, il est 13h. Avec vous aujourd'hui, Léo Roussel, j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant cette heure d'émission en français. Au programme aujourd'hui, nous allons faire un point sur les dernières actualités de ce jeudi 9 mai, puis vous retrouverez le journal des sports. En deuxième partie d'émission, Christophe Mallet vous présentera le journal de l'économie, puis vous retrouverez une interview exclusive de la réalisatrice Claire Burger, dont le film « Langue étrangère » est actuellement à l'affiche du Festival du film allemand en Australie. Mais d'abord, c'est l'heure de votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 9 mai, un homme de 45 ans a été arrêté ce jeudi matin à Sydney dans le cadre de l'agression d'une femme à l'arme blanche mercredi dans le quartier d'Alexandria. La police évoque un nouveau cas de violence domestique sur la base du genre. Au Proche-Orient, Israël tente de minimiser les tensions avec les États-Unis. Washington a révélé hier avoir suspendu la livraison d'une cargaison d'armes à destination de l'État hébreu en raison des craintes concernant une opération militaire à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Et puis en France, la flamme olympique est arrivée hier en grande pompe du côté de Marseille dans le sud de la France. Nous reviendrons sur cet événement tout au long de cette émission. À Sydney, un homme de 45 ans a été arrêté ce matin par la police, soupçonné d'avoir attaqué une femme à l'arme blanche hier soir dans le quartier d'Alexandria. Le suspect s'est rendu ce matin au poste de police de Diwai. Il a été transféré au commissariat de Manly dans la foulée. Il est soupçonné d'avoir poignardé mercredi soir une femme de 39 ans au cou, à la tête et dans le dos sur le parking d'une salle de sport. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave mais stable. Le suspect serait un ancien partenaire de la victime selon la police qui assure traiter l'affaire comme une agression ciblée au cœur d'une hausse des violences domestiques sur la base du genre en Australie. On écoute le commissaire Rodney Hart de la police de l'état de Nouvelle-Galles du Sud.
Yes, the offender is known to the victim. We believe that they had been in the past earlier this year in a very short domestic relationship. So this is being treated as domestic violence related.
L'Australie va continuer à miser sur les projets gaziers jusqu'en 2050, voire même plus tard. Le gouvernement fédéral australien a annoncé ce jeudi sa nouvelle stratégie concernant le gaz, assurant que celui-ci resterait une source d'énergie essentielle après 2050 et qu'il fallait par conséquent poursuivre son extraction en Australie. Cette annonce intervient alors que les appels à réduire le recours aux énergies fossiles et à l'extraction du gaz, du pétrole et du charbon se multiplient à l'international dans un contexte de crise climatique. Pour rappel, l'Australie a fixé ses engagements à zéro émission nette de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Sur les ondes de la radio ABC, la ministre australienne des ressources, Madeleine King, a indiqué que le gaz naturel jouera un rôle clé dans la transition énergétique australienne.
We want to be clear that in our messaging to the Australian people, but also to gas producers, that we know we need that resource into the future. But really importantly, the gas production has to lessen its emissions as far as it can be.
La police du Mexique a annoncé ce mercredi engager des poursuites contre l'un des trois suspects soupçonnés d'avoir tué par balle dans la tête les frères australiens Jake et Callum Robinson et leur ami américain Jack Carter dans une station balnéaire de Basse-Californie. Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. L'un d'eux est donc désormais considéré comme le principal suspect des meurtres. Selon les premiers éléments de l'enquête, les trois touristes seraient morts après la tentative de vol de leur pick-up. Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'est entretenu avec les parents des deux ressortissants australiens et leur a apporté son soutien.
It is every parent's worst nightmare to lose a child. to lose these two brothers in such a manner at this time is a cause of incredible sorrow. And to Martin and Deborah, you have the nation's thoughts with you at this difficult time.
La police de l'État du Victoria va présenter des excuses pour le rôle qu'elle a joué dans l'affaire des Stolen Generations, les générations volées, dans le cadre des réformes découlant de l'enquête sur le rétablissement de la vérité dans l'État. Au total, la police de l'État du Victoria va procéder à 79 réformes d'ici la fin de l'année 2025 dans le cadre de sa réponse à la commission Yorouk. Le commissaire principal Shane Patton a confirmé que les engagements de la police incluront des procédures améliorées pour les aborigènes ayant affaire aux forces de l'ordre. La police sera également davantage formée à la sensibilisation à la culture aborigène. La communication des statistiques policières concernant les aborigènes doit également être améliorée. Les excuses de la police aux générations volées devraient être présentées dès le mois prochain. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne tente de minimiser les rumeurs de tensions dans ses relations avec les États-Unis. Des rumeurs suscitées par la décision de Washington de suspendre la livraison d'une cargaison de bombes destinée à Israël, craignant qu'elle ne soit utilisée par l'armée israélienne lors d'une offensive terrestre à Rafah. Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a fait l'éloge de la coopération de l'État hébreu avec les États-Unis.
The security assistance of the United States since the beginning of the war is of unprecedented scale, I think, in the history of the State of Israel. Alongside this, there is something more important than security assistance, which is the operational assistance. The partnership of the IDF with the American Central Command, CENTCOM, is of unprecedented operational scale.
Et une délégation israélienne est attendue ce jeudi au Caire, en Égypte, où se poursuivent les négociations d'un cessez-le-feu. Enfin, au Brésil, le nombre de victimes des inondations causées par les pluies diluviennes continue de grimper. Les autorités évoquaient mercredi au moins 100 morts, alors que l'état du Rio Grande do Sul, le plus méridional du Brésil, s'apprête à recevoir de nouvelles pluies dans les heures et les jours à venir. Et puis en France, c'était l'actualité de ce mercredi 8 mai, la flamme olympique est arrivée sur le territoire à Marseille. La flamme est arrivée à bord du Belém, puis elle a été transportée jusque sur le Vieux-Port par plusieurs athlètes et par le rappeur marseillais Jul, le tout sous les yeux d'Emmanuel Macron. On écoute le président français.
The flame is on French soil. It's the end of several years of preparation, and it's still very emotional for me to remember July 2017, when we won the right to host the 2024 Olympic Games in Lausanne, and we were here in September. A few weeks later, nothing was ready. And today, the flame arrives, the games arrive, and enter the lives of the French people.
Une journée, une cérémonie sous haute sécurité, mais sous le soleil. On écoute ce supporter de l'Olympique de Marseille, présent pour les célébrations sur le Vieux-Port.
C'est le grand jour, j'ai ramené mon oncle avec moi. On va se régaler ici au Vieux-Port, comme d'habitude. Et en plus, il fait beau, il y a le soleil et tout. Ça fait un moment, c'était compliqué, il fait froid et tout, mais bon, on est là. Allez, l'OM.
Entre la flamme et l'OM.
C'est différent, mais toujours ça existe, l'OM. Il y a Soprano aussi avec nous, hein, ce soir. On est trop heureux, je suis content pour ça et pour Marseille aussi.
La météo de ce jeudi 9 mai, le temps sera pluvieux à Sydney et Newcastle avec des températures autour de 20 degrés. Des nuages sont attendus du côté de Melbourne où il fera 20 degrés également. Quelques averses devraient également ponctuer la journée du côté de Brisbane où il fera jusqu'à 24 degrés. Il fera 27 à Perth, sous les nuages également. Pour voir du soleil, il faudra se tourner vers Darwin où il fera jusqu'à 34 degrés et Adélaïde avec 23 degrés. Il est 13h13, vous êtes bien sur SBS French. Tout de suite, c'est l'heure du journal des sports avec Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute avec du football et la Champions League. Résultat de cette nuit, le Real Madrid est qualifié pour la finale de cette Champions League après une victoire 2-1 face au Bayern de Munich. Je vous rappelle, au match aller, les équipes avaient fait match nul de partout. Donc le Real Madrid qui se qualifie donc pour la finale de la Champions League, qui verra le club affronter le Borussia Dortmund. J'allais dire malheureusement si vous êtes un fan du Paris Saint-Germain, puisque Dortmund a battu le PSG 1-0 en match retour de cette demi-finale de la Champions League. Je vous rappelle également qu'au premier tour de cette demi-finale, c'était le même score, 1-0 pour les Allemands. On écoute quelques réactions. Tout d'abord, celle des vainqueurs, Sébastien Haller. Il est attaquant, il est ivoirien et il joue donc pour le Borussia Dortmund.
La joie est là. On sait que même si je ne suis pas rentré aujourd'hui, je sais le travail que j'ai fourni aujourd'hui pour aider les coéquipiers. Donc je suis vraiment fier d'être là avec eux. Je suis vraiment fier aussi de la performance de mes coéquipiers aujourd'hui. Et je sais que je serai utile à un moment donné, quoi qu'il arrive.
Sébastien Haller, donc pour le Borussia Dortmund. Le résumé de ce match avec beaucoup d'approximations parisiennes avec Cédric De Oliveira.
Les supporters parisiens attendaient beaucoup de ce match face à Dortmund, mais cette défaite a fait l'effet d'un uppercut pour Jérôme.
C'était un match terrible. C'était vraiment le pire match qu'on ait vu quand même de la saison. C'était vraiment affreux. Un peu dur.
Après la défaite 1-0 au match aller, il fallait l'emporter par 2 buts d'écart pour se qualifier. Mais pour le jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Emery, le PSG a été trop maladroit.
C'est sûr qu'on est très déçus, on aurait aimé aller en finale de Champions League. Maintenant, des fois, le foot, c'est comme ça. On a su se créer des occasions, mais on ne les a pas concrétisées. On a tapé le poteau, la barre.
C'est vrai, Paris a touché 4 fois les montants allemands, 6 fois sur l'ensemble des deux matchs. Mais de son côté, Mats Hummels a marqué sur l'une des rares occasions du Borussia. Et c'est toute la différence entre les deux équipes, estime un Kylian Mbappé, encore trop discret au Parc des Princes.
Je pense qu'ils ont été supérieurs dans les deux surfaces. Eux, ils sont venus une ou deux fois chez nous, ils ont marqué une fois. Nous, on est venus beaucoup de fois, on a marqué 0 fois. On n'était pas efficace. C'est trop difficile. Là, tu as besoin de chance. Et la chance, en demi-finale de Ligue des Champions, elle n'existe que très très peu.
Pour Mbappé, qui s'en ira cet été, c'était la dernière chance de remporter la Ligue des Champions avec son club de cœur. Le PSG, qui avait une belle carte à jouer cette saison, tentera lui de se reconstruire et espérer une nouvelle épopée l'an prochain.
Une réaction maintenant, celle de Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain.
Ils ont été efficaces, ils ont marqué 2 buts, ils ont gagné les deux. Les deux confrontations comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à ramener de cette compétition. Je crois que personne, au début de saison, personne allait croire qu'on est arrivé jusqu'à là. Nous, on a surmonté beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas les jeter en l'air maintenant, juste parce qu'on a éliminé en demi-finale. J'ai ramené avec des positives, des bonnes choses qu'on peut ramener pour la saison prochaine. Les supporters qui ont été incroyables, on les remercie. Et on voulait y aller jusqu'au bout, ramener cette place en finale au Wembley pour eux aussi. C'est dur, c'est très dur. Parce qu'on pouvait le faire, il y avait de la place, mais il y a manqué d'efficacité.
Allez, une dernière réaction, celle de Nasser El Haïfi, le président du Paris Saint-Germain.
On est très très déçus sur le résultat. Triste, bien sûr, mais je pense qu'on a mérité mieux ce soir. On a un total aujourd'hui, c'est 4 fois un poteau. Match la semaine dernière, 2 fois. Ballon ne va pas rentrer. C'était difficile, mais vraiment, les joueurs, coach, on a donné tout. Le supporter, honnêtement, c'était la soirée. On peut gagner, on peut qualifier, mais notre objectif, aller à la finale. Mais c'est la faute, on va accepter. Quelquefois, c'est pas juste, mais on va accepter.
Voilà, on l'aura compris, tout le monde est déçu dans le camp du Paris Saint-Germain. Mais la finale, ce sera donc le Real de Madrid contre le Borussia Dortmund. Une finale qui aura lieu le 2 juin, je vous le disais, à Wembley en Angleterre. Une finale donc haute en couleur, peut-être pour le club prochain d'un certain Kylian Mbappé. On ne sait toujours pas où il va, mais les rumeurs sont qu'il serait en direction de Madrid, donc du Real Madrid. Donc peut-être dans un club qui sera vainqueur ou non de la Champions League. En tout cas, un club finaliste de l'année précédente en Champions League, peut-être pour Kylian Mbappé. Allez, pour conclure ce journal des sports, on va faire un petit hommage, une parenthèse à Bernard Pivot, un grand homme de lettres qui a disparu cette semaine. Grand homme de lettres, mais également grand homme et grand amoureux du football. On écoute Bernard Pivot.
Je ne cache surtout pas mon amour pour le football. Moi, c'est intéressant d'avoir, d'aimer deux ou trois équipes par rapport à d'autres, parce que ça donne du piquant au match que l'on voit. C'est intéressant. Et surtout, l'extraordinaire sensualité du ballon quand il touche le filet. Et alors, quand on a joué, évidemment, vous savez, quand on a la chance de marquer un but, c'est encore une sensation encore plus grande. Faites l'expérience. Un enfant de 2 ans qui vient juste de marcher, mettez un ballon devant lui. Il va pas se baisser pour le prendre. Il va donner un coup de pied dedans. Donc, je pense qu'on a inventé le football avant le basket ou le volley. J'ai beaucoup joué quand j'étais enfant, sans être un joueur bien doué. Mais j'étais un joueur obstiné, têtu et gagneur. J'étais dans un pensionnat, et quand on allait jouer à l'extérieur, évidemment le jeudi, eh bien, c'était l'occasion de quitter les murs du collège. Et quand on revenait avec une victoire, on donnait l'assurance à ceux qui étaient restés à l'intérieur des murs que non seulement à l'extérieur il y avait la liberté, mais à l'extérieur il y avait la victoire. On pouvait revenir avec la victoire, ce qui était formidable vis-à-vis non seulement de nos condisciples, mais aussi des professeurs.
Voilà donc Bernard Pivot sur son amour du football. C'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. A tout de suite.
h 23 sur SBS French. On fait une courte pause, puis on se retrouve avec le journal de l'économie.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, comme chaque semaine, on va parler d'économie avec notre spécialiste sur la question, Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Salut Christophe.
Alors cette semaine, on va parler d'un quelque chose qui peut être un petit peu ennuyeux si on n'est pas trop près des finances, mais le budget fédéral, c'est mardi prochain. Qu'est-ce qu'on sait déjà ?
On sait déjà, est-ce que le Premier ministre Anthony Albanese et le trésorier Chalmers nous ont dit, c'est que un grand focus du budget, ça sera le coût de la vie. Donc, il faut savoir que non seulement le coût de la vie, c'est une grande question depuis longtemps, aussi l'inflation, etc., mais aussi on s'approche de plus en plus des élections. Donc, souvent avant les élections, les gouvernements veulent que dans leur budget, il y a quelque chose pour aider les gens. Ils n'aiment pas trop taxer les gens plus dans le budget avant les élections. Et là, on sait que déjà, le gouvernement a annoncé de l'aide pour les étudiants. Donc, leurs dettes vont être allégées un petit peu. On sait déjà que, en fait, les impôts vont être coupés aussi, le Stage 3 Tax Cuts. Mais aussi, on sait que le trésorier a dit qu'il n'y aura pas non plus des grandes dépenses. Il ne faut pas s'attendre à ça. Donc, ça aussi, c'est parce que la Banque centrale dit toujours que l'inflation reste un problème. Là, ils ont laissé le taux d'intérêt, ils n'ont pas bougé, là, cette semaine, mais ils ont dit que l'inflation reste un problème qui continue et peut-être qu'ils vont être obligés de faire monter le taux d'intérêt plus tard. À part tout ça, le Premier ministre a dit qu'une chose centrale dans le budget sera l'agenda économique de l'avenir. Ça s'appelle le Made in Australia Agenda. Plus ou moins juste fabriquer plus de choses ici en Australie. Du matériel dans l'économie vis-à-vis l'énergie, donc le solaire, le vent, etc. Mais aussi plus d'investissements, bien sûr, dans les ressources qui sont une partie tellement importante de l'économie australienne. Et le gouvernement va dépenser 566 millions de dollars pour, en fait, créer des cartes de toutes les ressources qui existent sous le sol en Australie et sous la mer. Et ça va être utilisé par Geoscience Australia pendant les 10 ans à venir. Ce sera un projet à long terme. Ça va aider les business, les compagnies minières à savoir où se trouvent les ressources et les aider donc à exploiter ces ressources.
Une sorte de Google Maps des ressources ?
Bah, exactement ça. Voilà, exactement. Mais ça va prendre 10 ans quand même, parce que c'est quand même un très, très grand pays.
Ouais.
Et c'est sûr qu'ils ne vont pas tout trouver non plus. L'exploration, ça forme une énorme partie du business de ces grandes compagnies minières. Donc ça va continuer aussi. L'autre chose qu'on sait, c'est que la dette du pays devrait baisser. L'annonce, il devrait annoncer que c'est 152 milliards de dollars moins que ce qui était attendu il y a quelques années. Donc ça, c'est un énorme changement. Une partie de ça, c'est aussi parce que le prix du minerai de fer continue à grimper malgré toutes les prévisions. C'était à 120 dollars la tonne il n'y a pas longtemps. Donc chaque dollar que ça monte, ça rajoute des milliards de dollars à l'économie australienne. Donc voilà un peu ce qu'on en sait. Il y aura sûrement des surprises, mais grosso modo, ça sera un focus sur le coût de la vie, pas trop dépenser, rien faire qui va énerver les gens avant les élections l'année prochaine.
Voilà, c'est le cas aussi qu'il faut comprendre, hein, si on est nouveau dans le pays, c'est que le budget, il est tellement politique en Australie et qu'on s'attend aussi à un contre-budget dans la foulée de l'opposition. Plus qu'une question économique, c'est une question politique, le budget.
Oui, tout à fait. Quoi qui est annoncé dans le budget, c'est certain que l'opposition, si l'opposition est travailliste ou conservatrice, ça ne change pas. Ils vont dire que le budget... Et en fait, n'est pas du tout efficace.
Oui, incorrect, invalide.
Incorrect, qu'ils n'aident pas vraiment les Australiens. C'est toujours un peu la même chose. Et donc, c'est vraiment très, très politique comme ça. Il y a certaines choses que l'opposition va soutenir, c'est sûr. Ils vont soutenir la décision de couper les impôts, les state straight tax cuts. Ils vont soutenir la décision d'aider les étudiants, d'alléger leurs dettes. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas très controverse, cette idée de faire la carte de tous les ressources sous la terre, ça c'est pas quelque chose que l'opposition va opposer, mais ils vont dire que le gouvernement n'a pas assez aidé les gens probablement.
Ouais, c'est sûr. Et en tout cas, le devil is in the detail, comme on dit en anglais, hein, donc il faudra trouver ça dans le budget comme chaque année.
Voilà.
Allez, on va parler d'autre chose. Il est de plus en plus difficile d'être un artiste en Australie et de vivre, alors j'allais dire pas de sa passion, parce qu'un artiste c'est aussi un métier, c'est de plus en plus difficile en Australie de vivre de son métier d'artiste.
Oui, voilà, tout à fait. Donc dans d'autres pays, en France par exemple, il y a des grandes subventions pour les artistes, ici beaucoup moins. Il y en avait pendant la pandémie Covid-19, mais là c'était un rapport qui s'appelle The Artists as Workers Report. Et là, ils ont trouvé que le salaire moyen d'un artiste, c'est 54 000 dollars l'année, ce qui est 26% en dessous du moyen national. Donc, ils gagnent vraiment pas beaucoup d'argent que les femmes artistes gagnent 19% moins encore que les hommes. Donc là, il y a une vraie discrimination, on peut dire. Et en fait, quand on regarde seulement l'argent que les artistes gagnent de leur travail, de l'art qu'ils créent, ils ont trouvé que la moitié gagne moins de 10 000 dollars chaque année. Donc, c'est évidemment très, très difficile. Et il y en a même seulement 1 sur 10 qui peuvent travailler à plein temps et gagner leur vie à plein temps avec leur art, avec leur créativité. Et les autres, 9 sur 10, sont obligés de faire d'autres travails, qui n'a peut-être de l'enseignement de l'art ou sinon du travail qui n'a rien à faire avec l'art du tout. Donc ça reste vraiment, vraiment très, très difficile et il y a moins en moins de d'artistes aussi. Ils ont trouvé que c'est tombé, mais pas trop depuis 2016. C'était 88 000 en 2016. Maintenant, c'est 87 000. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça n'a pas trop changé. Mais voilà, ça reste très dur. Il y a des subventions, il y a des grants qu'ils peuvent avoir pour faire des expos, pour faire de l'art. Mais c'est pas le bonheur.
Ouais, alors c'est aux États-Unis, mais on dit souvent que les meilleurs acteurs à Hollywood, pour les chercher, il faut aller au Starbucks. Parce qu'ils travaillent tous au café, en fait. Et c'est tous des baristas, et c'est à peu près la même chose en Australie. En tout cas, merci Nicolas de nous avoir éclairé sur l'écho cette semaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous êtes toujours sur SBS French, il est 13h35. Tout de suite, on vous propose une interview exclusive avec Claire Burger, la réalisatrice française du film Langue étrangère. Le film est à l'affiche du Festival du film allemand en Australie du 7 mai au 5 juin 2024. Une interview réalisée par Marianne Murat.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en ligne avec Claire Burger, la réalisatrice du film Langue étrangère, son titre en français. On le trouve également sous le titre de Foreign Tongue en anglais ou alors parfois Foreign Language selon le diffuseur. Et ce film est actuellement en diffusion au Festival du film allemand qui se déroule en Australie jusqu'au 5 juin. Claire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née à Forbach, en Moselle, en France, à la frontière avec l'Allemagne. Langue étrangère, votre film est intimement inspiré de cette double culture entre la France et l'Allemagne. On en écoute un extrait.
Les nuages. Les gens.
Volk. Der Volk.
Non, die Wolke.
Volk, c'est le peuple, das Volk. Et le nuage, die Wolke.
Volke.
Ton genou
Neutre. Das Knie. Fuß. Die Fuß.
Non, c'est masculin, c'est der Fuß.
Der Fuß.
Oui.
J'aime pas mes pieds.
Eh mais pourquoi?
Ils sont mignons.
Ils sont tout petits.
Moi je dessine, moi je... Tu vois.
Je suis comme ça. Et si ça plaît pas aux autres, je m'en fous.
Ils sont pas du tout moches, les amis. N'importe quoi.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de Langue étrangère ?
Alors, Langue étrangère, c'est l'histoire de deux adolescentes, deux jeunes femmes contemporaines, une Française, Fanny, une Allemande, Léna, qui se rencontrent pour un séjour linguistique, un échange, en fait. Donc, la moitié du film se passe à Leipzig, en Allemagne. Et puis l'autre moitié à Strasbourg, en France. Et donc c'est un coming of age, quelque part, entre ces deux jeunes filles, une métaphore un peu de la relation franco-allemande, mais aussi une histoire d'amour.
Oui, parce que quand on voit un extrait, ou pour nos auditeurs qui ont la chance, on vend avoir la chance de regarder ce film, c'est un film, dites-moi si je me trompe, mais sur les barrières sociales, que ce soit, vous l'avez dit, la différence de langue, mais aussi l'adolescence, l'identité, la sexualité, les relations familiales, la politique même.
Oui, en fait, j'avais envie de parler de la jeunesse d'aujourd'hui et aussi de l'identité, en effet. Comme je suis née à la frontière franco-allemande, je sais, ou en tout cas, j'ai senti, moi, qu'une identité culturelle, en tout cas, c'était quelque chose de mosaïque, tout comme l'identité sexuelle, l'identité de genre, et évidemment, la politique aussi, en tout cas, les questions qui se posent à l'endroit de nos géographies, la façon dont on fait groupe, la façon dont on fait lien, mais aussi les choses pour lesquelles on a envie de se battre, tout ça, c'est des choses particulièrement à l'adolescence qui viennent constituer notre être profond. Et je voulais parler, en parlant de la jeunesse aussi, de comment on compose comme ça dans sa famille, en dehors de sa famille, lors de voyages et lors de rencontres avec l'autre, sa propre identité.
D'ailleurs, dans le film, on ne parle jamais vraiment de si elles sont hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles. Ce n'est pas évoqué. Est-ce que vous pensez que c'est une question très actuelle aujourd'hui d'avoir un petit peu cette liberté identitaire qu'on n'avait pas avant, ou vous pensez que ce film, vous auriez très bien pu le faire il y a 20 ans aussi, par exemple?
Je pense que j'ai essayé, justement en ne faisant pas de l'homosexualité ou en tout cas de l'attirance entre ces deux jeunes filles, une question de fond du film, mais de laisser finalement cette attirance se développer dans le film sans que ça crée de problème. J'ai effectivement voulu parler aussi d'un rapport à la sexualité, à l'identité qu'on peut avoir aujourd'hui, particulièrement dans la jeunesse. Après, évidemment, ça ne concerne pas tous les groupes. Il y a aussi des groupes de jeunes aujourd'hui pour qui ça reste compliqué, une attirance homosexuelle. Il y a une grande histoire des représentations de l'homosexualité au cinéma, et je trouvais important aussi aujourd'hui de pouvoir aborder ces sujets-là sans en faire justement un sujet. Et dans le film, les deux jeunes femmes commencent par une relation d'amitié. Elles glissent petit à petit vers quelque chose de plus amoureux. Mais ce n'est pas le sujet même du film. Le sujet, c'est la rencontre avec l'autre, la tentation et la tentative d'essayer de le comprendre, de l'aimer, mais peu importe son genre.
Et pour ce qui est du casting, c'est assez éclectique, car par exemple, l'une des actrices, celle qui joue Lena, Josefa Ensius, j'espère que je prononce Ensius, c'est son premier rôle dans un long métrage. Et d'un autre côté, dans le rôle de la mère, vous avez Chiara Mastroianni, qui est une géante du cinéma. Comment vous avez justement formé ce casting pour votre film ?
J'avais envie d'abord de faire se rencontrer des actrices françaises et des actrices allemandes. On a vraiment tourné dans les deux pays. Et je voulais aussi faire en sorte que le film puisse se faire rencontrer deux générations d'actrices. Donc, il y a Lilith Grassmug, Josefa Ensius, et de l'autre côté, Chiara Mastroianni ou Nina Hoss. C'était aussi deux monstres, l'une du cinéma allemand, l'autre du cinéma français. Et pour moi, c'était intéressant de les faire rencontrer des jeunes actrices. En effet, Josefa Ensius n'avait fait que du théâtre jusque-là. Pour moi, c'était aussi une façon de raconter métaphoriquement comme ça, c'était compliqué pour cette génération de s'imposer face à une génération d'aînés qui peut être un peu écrasante, et de les voir un peu batailler pour ça, pour exister, pour se trouver, pour trouver leur propre façon de s'incarner à l'écran.
Et Langue étrangère, la première mondiale, c'était en février dernier à la Berlinale, avec un superbe accueil.
Oui, ça s'est très bien passé, on était très contents. Je crois que la Berlinale, c'était vraiment le festival idéal pour ce film franco-allemand. Il est même aussi un peu belge, ce film, donc c'était vraiment un film européen. Et on était très heureuses parce que les gens ont beaucoup ri dans la salle. Et c'est vrai que j'ai essayé dans le film, même s'il aborde des sujets parfois assez sérieux ou en tout cas qui tentent de raconter aussi les angoisses de la jeunesse d'aujourd'hui, j'ai essayé aussi de mettre de l'humour, de l'émotion. Et on a eu le sentiment, oui, que le public réagissait très bien au film, et ça, c'était vraiment très, très agréable. Après 5 ans de travail, c'était un beau moment.
Justement, j'allais vous demander, parce que c'est votre troisième long métrage, après Party Girl et Real Love, c'est ça l'amour en français. Est-ce que vous diriez, après 5 ans de travail, justement, que c'est votre œuvre la plus aboutie ?
En tout cas, c'est le film qui peut-être assume le plus le pas vers la fiction, et j'avais jusque-là fait des films peut-être dans une veine plus naturaliste, avec une sensation peut-être d'hyper-réalisme. Là, cette fois-ci, j'ai voulu travailler d'autres choses. Il y a des scènes oniriques dans le film, et peut-être le plus abouti, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un film dans lequel j'ai mis beaucoup, beaucoup de moi, beaucoup de passion, beaucoup de travail, et j'espère, oui, que c'est le plus abouti. J'aimerais bien pouvoir faire des films de plus en plus aboutis.
En parlant d'autres films, vous êtes déjà en train de travailler sur de nouveaux projets ?
Je commence à y réfléchir. J'ai beaucoup d'idées. Maintenant, il faut que je fasse le tri parce que, comme je le disais précédemment, chaque film, c'est des longues années de travail, beaucoup de concentration. Donc, il faut que je choisisse le bon sujet. Je ne suis pas encore sûre de moi.
Claire Burger, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes la réalisatrice du film Langue étrangère, actuellement diffusé au Festival du film allemand, sponsorisé par la HSBC en Australie du 7 mai au 5 juin. Et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce festival sur www.germanfilmfestival.com.au. Claire, merci beaucoup.
Merci à vous.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Allez, on vous en parlait en début d'émission, la flamme olympique est arrivée en France à Marseille mercredi. Elle va désormais parcourir la France. On vous propose un reportage au cœur du dispositif de sécurité qui l'accompagnera tout au long du chemin. Un reportage de Radio France Internationale.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est un convoi très lent d'une quarantaine de véhicules qui s'avancent.
Donc là, vous voyez le relayeur qui arrive avec la torche.
Camichès, porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Autour d'elle, il y a le gardien et les runners, policiers et gendarmes qui sont là en protection.
Des runners, il y en a 18 autour du porteur de flammes prêts à intervenir en cas d'intrusion.
On a un individu interpellé, plaqué au sol par les effectifs runners.
Parmi ces coureurs, Jérémy, il est gendarme et va accompagner les porteurs de flammes tout au long de leur parcours.
Nous, on est le cordon de sécurité qui encadre le porteur de la flamme. Donc on est vraiment au plus près du porteur. Notre mission, c'est simplement d'assurer sa sécurité déjà à lui, à la personne humaine, éviter que personne ne puisse en prendre à lui, et ensuite à la flamme et au message qu'elle véhicule. Donc c'est de sécuriser son cheminement tout au long du relais.
En tout, une soixantaine de policiers, gendarmes et militaires vont entourer la flamme olympique tout au long de son parcours. Des véhicules avec des unités d'élite comme le GIGN ou des spécialistes de la lutte anti-drone feront aussi partie du convoi, explique Camille Chaise.
Il y a une cinquantaine de scénarios. Il peut y avoir un problème sur le porteur, un problème sur le véhicule, un problème de tentative d'intrusion, un itinéraire. Pour chaque incident qu'on a imaginé, qu'on a ciblé, il y a une idée de manœuvre à mettre en œuvre par les policiers, les gendarmes et sous le commandement d'un sous-préfet qui est présent dans ce convoi du début à la fin de l'événement.
Parmi ces scénarios envisagés, il y a tout simplement celui du porteur de flammes qui se blesse.
Le relayeur vient de tomber. Une équipe de secouristes vient à sa rencontre et la gardienne de la flamme récupère la torche.
Le gardien de la flamme, c'est un acteur clé de cette bulle de protection. Manon, policière, fait partie des sélectionnés pour cette mission.
Ah, j'ai une larme qui a coulé quand même. Hein. C'était juste de l'excitation. C'était un pur bonheur. Quoi.
Elle a une mission, ne pas quitter la flamme des yeux.
Notre rôle à nous, ça va être de garder effectivement les flammes qui vont être allumées tout au long du parcours. Donc on va devoir alimenter les lanternes au fur et à mesure. Il y aura plusieurs lanternes de sécurité. Hein. Si le feu s'éteint, il faut obligatoirement qu'une lanterne de sécurité puisse rallumer la torche. Donc on va les garder jour et nuit. Donc voilà, ça va être une grosse responsabilité, mais tout va bien se passer. Ça, j'en doute pas.
Comme Manon, ils seront près d'une centaine gardiens de la flamme à veiller sur elle jusqu'à son arrivée à Paris le 26 juillet prochain.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Il est 13h55 sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres de ce jeudi 9 mai 2024. Un homme de 45 ans a été arrêté ce jeudi matin à Sydney dans le cadre de l'agression d'une femme à l'arme blanche mercredi dans le quartier d'Alexandria. La police évoque un nouveau cas de violence domestique sur la base du genre. Au Proche-Orient, Israël tente de minimiser les tensions avec les États-Unis. Washington a révélé hier avoir suspendu la livraison d'une cargaison d'armes à destination de l'État hébreu en raison des craintes concernant une opération militaire à Rafah. Et puis en France, on en a parlé tout au long de cette émission, la flamme olympique est arrivée hier du côté de Marseille. Elle va désormais parcourir la France jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux le 26 juillet à Paris. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. J'ai été très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français en direct, ce sera samedi, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent jeudi après-midi sur les ondes d'SBS Radio.